France Culture.
Il y a une très forte ébullition de la poésie aujourd'hui qui s'accompagne de sa démocratisation grâce à des formes radiophoniques également, qui permettent de dire aux gens aussi que la poésie s'adresse à eux et à elles, et qu'il y a des propos qui sont aussi qui peuvent toucher le plus grand monde, tout en ne perdant pas sur l'exigence du travail. C'est très important pour moi de le préciser. Je ne parle pas forcément de moi ici, mais on a pu parfois dire que cette nouvelle génération de poètes et de poétesses était beaucoup sur l'émotion pure, l'émotion brute. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle il faut être vigilante, c'est répondre à ça, parce qu'il y a aussi pas mal de travail technique dans ces écritures-là qu'il ne faudrait pas éluder, parce que je pense que c'est assez symptomatique justement d'une suspicion sur la sensibilité, un doute qui est posé sur la valeur du travail. Et ça m'intéresse. Donc moi, plus on parle de cette génération dans ces termes-là, plus j'ai envie de répondre par davantage encore d'émotion et de sensibilité. Je vais vous lire des textes. Il y a un inédit que j'ai écrit il y a quelques semaines, en me réveillant en pleine nuit et en me rhabillant et me rasseyant pour l'écrire. Il y a un autre texte qui figure dans l'anthologie des éditions Segers, Esprit de résistance, paru en 2025. Mes textes n'ont pas de titre. Le premier, je vais pas y arriver, d'après sa première ligne, évoque un peu une forme d'égalisation des souffrances. Le fait que toutes les souffrances ont leur droit à exister et qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie, alors que pourtant tout nous prête à en faire et objectivement il y a une hiérarchie des souffrances. Et pourtant, on ne peut pas dire à un petit garçon qui vient de faire tomber sa glace et qui pleure à pierre fendre qu'il ne s'est rien passé. Et donc moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur le fait que je me sens très très souvent émue et très souvent désespérée par beaucoup beaucoup de choses. Et je me questionne en fait sur la valence de toutes ces choses-là et sur leur équivalence ou leur non-équivalence. Et c'est un moyen pour moi de questionner aussi le lecteur ou la lectrice sur ces choses-là, lui demander où il ou elle se situe sur cette échelle où tous les barreaux sont valables. Je vais pas y arriver. À hurler la dame le pied sur la marche de 5 cm. À hurler le garçon brumeux qui avait pourtant promis et par écrit signé de travailler comprendre. À hurler le cornu cul nu enfermé dans ses WC. À hurler la malade dont la cagnotte ne dépasse pas les 70 euros. Ai-je hurlé devant 17 pages relues 17 fois, à hurler le petit ados en forme de fille qui n'a plus assez de muscles pour doubler les bombes aux 200 mètres, à hurler sans le dire. Le bébé tentant la station assise. La forme de mes textes est presque entièrement décidée par le rythme. Une partie a une dimension graphique, tout de même. J'aime beaucoup les effets de réduction, par exemple, sur la page, ou les effets d'enflement et de réduction. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment la composante rythmique qui travaille la page, avec l'idée que c'est ma respiration qui fait les retours à la ligne. C'est vrai que j'écris parfois des poèmes en vers libre, je ne connais pas tellement cette appellation, mais avec des retours à la ligne. Par exemple, je peux vous dire que dans le poème « Je vais pas y arriver », tous les retours à la ligne sont sur les groupes de mots « à hurler, à hurler, à hurler, à hurler le garçon brumeux qui avait pourtant promis et par écrit signé de travailler comprendre ». Et pour moi, ces « à hurler » sont un peu des balises et des endroits où je peux venir m'accrocher en lisant le texte et le reste peut être assez fluide à l'intérieur. De toute façon, tout peut être fluide. Si quelqu'un le lisait complètement autrement, je serais ravie. Mais voilà, ces balises sont ces retours, ces anaphores avec ces groupes verbaux « à hurler ».
À hurler le cornu, cul nu, enfermé dans ses WC. À hurler la malade dont la cagnotte ne dépasse pas les 70 euros. À hurler, sans le dire, le bébé tentant la station assise.
Le deuxième texte, tout ce qui ne sera pas dit, ça évoque aussi une forme de rétention de l'écriture. On est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites et j'en fais partie, je ne suis pas en reste. Beaucoup, beaucoup de choses ont besoin de s'exprimer et c'est très important. Et en même temps, il peut y avoir une sensation d'écrasement, comme si voilà, il y avait une sorte de marée de mots, une marée de propos et que tout voulait se faire entendre. Et il y a quelque chose d'assourdissant là-dedans, un peu. Et donc j'ai l'impression qu'il faut, dans ce poème, sans vouloir être sentencieuse, mais j'essaye de protéger une forme de silence, une forme de secret, mais également témoigner d'une forme d'impuissance par rapport à certaines choses qui sont indicibles et qu'il y aurait pour moi presque une sorte d'indécence à formuler, parce que la poésie n'est pas à cet endroit-là.
Tout ce qui ne sera pas dit, parce que ça se mange, ça se boit, ça se touche, ça se parle pas. Parce que caché
dans le creux de ton bras, dans le pli de ma cuisse, parce que ça les regarde pas, ça regarde personne. Tout ce qui ne sera pas dit parce que tellement triste que muet, parce que tellement honte que cousu, tout ce qui ne sera pas dit parce que tel hurlement infini qu'indécence de faire une phrase, tout ce qui ne sera pas dit parce que nos vivants sont friables, les mots des strikes dans leurs jambes, les vérités des balles dans leur tête, tout ce qui ne sera pas dit parce que nos morts sont beaux et que, chut, recueillement, amen. Tout ce qui ne sera pas dit parce que mieux dit ailleurs, et dit 10 fois, et 10 fois maintenant, et simultanément, ou bien par une voix morte, transperçant les siècles, pour te le dire, à toi.
Il y a une forme aussi de d'épuisement du souffle. Ce que je voulais aussi, c'est faire une extinction de la respiration, pour dire justement, on arrive au bout de ce poème à un silence, on ne peut plus parler. Idéalement, il faudrait presque le faire sans prendre sa respiration une seule fois, pour arriver à une extinction de voix, qui serait voilà, le pendant organique de ce que dit le texte. Pour moi, cette écriture en bloc, elle relève de la litanie, de la prière plus ou moins mystique, plus ou moins païenne, une sorte de d'incantation, voilà, une incantation à l'autre.
Amen. Tout ce qui ne sera pas dit parce que mieux dit ailleurs, et dit 10 fois, et 10 fois maintenant, et simultanément, ou bien par une voix morte, transperçant les siècles, pour te le dire, à toi.
Il y a une réflexion dans mes textes sur ce que peut et ce que ne peut pas la langue, mais aussi sur ce que ne devrait pas toucher la langue, pour moi, hein. Pas du tout dans une dimension prescriptrice. Dans mes poèmes, je ne parle jamais de la dimension autobiographique. On n'entendra jamais parler des personnes qui me sont proches. Je pense que c'est à ce prix, à cette condition, qu'on sauvegarde aussi une vraie possibilité d'identification. Un vrai rapport à la fiction, même la fiction poétique, c'est-à-dire la possibilité de changer de chaussure, de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est à cette condition aussi qu'on peut établir ce pont avec l'autre, j'ai l'impression, plutôt que de lui parler de ma propre vie qui n'a pas forcément un intérêt poétique pour l'autre.
Te le dire, à toi.